Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Libre pour apprendre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des craintes que peuvent avoir les parents lorsqu'ils choisissent des apprentissages libres pour leurs enfants. Alors, je suis Gypsy Nussbaum, je suis enseignante facilitatrice dans une école qui est libre de programmes imposés et d'évaluations notées. Et j'ai souvent été confrontée aussi moi-même par rapport à certaines craintes qu'on peut avoir en tant que parent vis-à-vis de ces apprentissages. On en parle aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons donc voir quelles peuvent être les craintes qu'ont les parents quand ils souhaitent, qu'ils ont l'intuition que l'instruction dans une école libre où les apprentissages sont librement choisis par l'enfant, pourrait lui apporter quelque chose. C'est rare que les parents y aillent les yeux fermés sans avoir déjà une bonne expérience d'avoir observé des enfants réussir ou passer par des apprentissages libres et se trouver dans la société intégrés et bien. Donc, il peut y avoir différentes craintes. Une des craintes peut venir d'abord de notre propre expérience personnelle. Combien de fois nous-mêmes nous avons eu des souhaits, des envies, des désirs de réaliser des projets et qu'on a reporté? Combien de fois on a souhaité pratiquer un sport ou se mettre à apprendre une langue ou autre chose et en fait qu'on n'a pas réalisé ce souhait? Et souvent, ça crée déjà une première crainte, une première distance par rapport au fait qu'on va se sentir en sécurité dans l'envie qu'on aurait de pouvoir permettre à nos enfants d'entrer dans des apprentissages libres en se disant que effectivement ce n'est pas chose facile que de se mettre au travail sans soutien quand on peut décider de faire ou de ne pas faire les choses. Alors, de mon côté, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a deux façons d'appréhender ces situations. La première, c'est de dire, on va laisser faire l'enfant, on va le laisser se planter, parce que quand on se plante, on pousse. Mais des fois, il faut se planter très loin. Combien de fois on n'a pas pu arrêter d'être gourmand jusqu'à un jour où peut-être on a eu des problèmes de santé ou de quelque chose de ce type. Donc, ce n'est pas forcément toujours ce que l'on souhaite pour nos enfants. On a peut-être envie qu'ils y arrivent en trouvant leurs propres ressources et qu'ils s'activent par eux-mêmes. Et dans ce sens-là, c'est peut-être intéressant de les laisser un petit bout de chemin dans l'expérience de l'échec en fait, et au bout d'un moment il peut s'avérer utile aussi de les soutenir et de leur donner des clés pour dépasser en fait les blocages qu'ils auraient à passer à l'action. Et ça, c'est important de voir aussi, si on choisit les apprentissages libres, de comprendre si le lieu dans lequel on souhaite inscrire son enfant ou en faisant l'instruction en famille, à quel degré on va laisser l'enfant expérimenter l'échec, le fait d'être inconfortable avec la situation de ne rien faire et le moment où on va activer autour de lui des possibilités, lui tendre la perche, l'aider à traverser des choses sans forcément aller au-delà de son envie à lui, mais juste parce qu'on ne le voit pas bien et qu'on va lui proposer qu'il y a peut-être d'autres alternatives possibles et s'il est d'accord de les prendre, on va les lui offrir. C'est la même chose qui se passe pour nous adultes quand on se tourne vers du développement personnel ou vers un soutien extérieur parce qu'on a vraiment envie de réussir et qu'on voit qu'en fait, tout seul, on n'y arrivera pas. Donc c'est déjà important de voir dans quel cadre on va pouvoir inscrire son enfant. La deuxième peur qui est aussi présente, c'est la peur de la société. Alors comment ça se passe quand on a un enfant qui est dans une école où il n'y a pas de notes, où il n'y a pas de programme et qu'il va entrer plus tard dans un apprentissage ou dans une école supérieure? Et comment ça va se passer? Alors la plupart des écoles peuvent accueillir des enfants qui viennent, d'ailleurs ils le font tous, en tout cas dans notre région, des écoles qui devraient accueillir un enfant qui vient d'un autre continent, par exemple, qui n'a pas du tout eu la même scolarité qu'un enfant européen ou même suisse ou français. Donc il y a des évaluations, des examens qui sont faits chaque année pour ces enfants qui viendraient avec en fait un bagage qui serait différent de celui des enfants de Suisse, de France, de Belgique. Donc la plupart des écoles qu'on a visitées proposent ces examens et en même temps un entretien avec l'élève, le futur élève, et ils observent aussi si cet enfant est capable de rattraper les choses qu'il n'aurait peut-être pas apprises et s'il a envie. Et ce sont quand même, avec l'expérience qu'il y a de l'école Sudbury aux États-Unis, ces enfants, quand ils décident de faire quelque chose, en général, c'est vraiment un choix éclairé et ils se donnent les moyens de réussir. Donc, c'est en tout cas pour les écoles autour de la Sudbury, ce que j'ai pu lire de Daniel Greenberg, qui a été le fondateur de cette école, c'est que ses élèves étaient plutôt appréciés et recherchés lorsqu'ils décidaient d'entrer dans une école. L'expérience que j'en ai, elle est encore petite, mais elle est intéressante parce que ça va aussi dans cette perspective, ça entre en fait dans ce que j'ai pu lire autour de l'école Sudbury. Donc c'est aussi intéressant pour les maîtres d'apprentissage, d'avoir des jeunes qui en fait sont autonomes, voient ce qu'il y a à faire, s'intéressent, aiment apprendre ce qu'ils font. Et c'est tout de suite beaucoup plus motivant d'embaucher un jeune qui a déjà un peu une expérience de vie. Voilà, donc par rapport à la société, on voit aussi que les entrepreneurs, justement, ils sont plutôt à la recherche d'apprentis autonomes. Et les écoles supérieures, le retour que j'en ai, c'est aussi qu'ils sont très contents d'avoir des enfants qui ont peut-être une autre façon de voir et qui peuvent apporter quelque chose de différent au sein d'un groupe classe. Ensuite, comme troisième crainte, il peut y avoir la crainte vis-à-vis de son enfant. C'est-à-dire constater que notre enfant, il a des difficultés. Notre enfant, il va peut-être pas apprendre facilement comme tous les autres enfants. Alors on a des enfants qui n'ont aucun souci, puis où on peut leur faire entièrement confiance. Mais même ceux-là, des fois, il peut y avoir la difficulté que nous, on va, en tant que parents, reporter des attentes sur eux. Peut-être qu'on voit qu'ils s'en sortent bien, qu'ils apprennent bien, et en fait, on aurait envie de les propulser sur je ne sais pas quel échelon de la société, en tant que médecin, avocat ou je ne sais quoi d'autre. Et en fait, on va porter ces attentions sur notre enfant, et ça va court-circuiter, en fait, ça va amener des craintes sur l'enfant, alors qu'à la base, il serait totalement capable d'apprendre de manière autonome et même de bien apprendre. Mais en mettant une pression supplémentaire, eh bien, ça va desservir l'enfant qui va se retrouver en difficulté. Donc c'est important pour un parent de travailler aussi ces craintes-là et puis ces envies, ces attentes qu'il y aurait vis-à-vis d'un enfant, ainsi que les facilitateurs qui se trouvent dans ces écoles. C'est important de sortir des attentes et vraiment d'observer que l'enfant puisse évoluer dans ce qui lui convient à lui et de le laisser vraiment libre à l'intérieur de ça et de le soutenir, de l'encourager, des fois de le booster un peu, mais dans ce qu'il choisit lui en fait. Et finalement, il peut y avoir des enfants qui sont effectivement en difficulté, où là les craintes sont justifiées, où on voit qu'il y a des difficultés d'apprentissage, des difficultés de mémorisation ou de lecture ou d'autres choses qui font que là on devra peut-être abandonner l'idée que l'enfant puisse être autonome à un certain degré qu'on aurait espéré, mais qu'il ait besoin de moyens auxiliaires, qu'il ait besoin de soutien de différentes manières. Et à ce moment-là, c'est aussi important de pouvoir collaborer entre l'école et les parents pour vraiment soutenir, parce que c'est des moments pas faciles, pas évidents, ni pour l'école parce que ça demande un gros investissement, ni pour les parents parce que c'est un peu se retrouver dans un processus de deuil. Et c'est pas simple d'abandonner l'idée que ben peut-être l'enfant ne réalisera pas tout ce qu'il souhaite exactement comme il le souhaite, ou alors il le réalisera, mais ça lui prendra beaucoup plus de temps. Alors voilà un peu les trois sortes de craintes dans lesquelles on peut être et leurs conséquences, et aussi les manières un petit peu de dépasser ça. Donc en pouvant dépasser aussi pour l'enfant qui est en difficulté, en faisant ce processus de deuil et en acceptant que ben peut-être qu'il sera quand même heureux dans sa vie, et c'est forcément ce qui se passe quand on arrive à passer ces étapes de deuil et à accepter ce qui se passe et à dire, même si c'est plus long, ben, tant pis, ça sera le temps qu'il faudra, c'est le temps qu'il lui faut à lui, et c'est juste aussi comme ça. Dans la nature, dans l'écosystème, tout est juste, tout a son ordre et sa place, dans l'écosystème humain également, si on lui laisse la place. Alors, j'espère que ça a un peu éclairé sur les différents types de craintes qu'on peut avoir. Et peut-être que certains parmi vous avaient certaines craintes, en ont maintenant, en auront peut-être une fois s'ils imaginent amener leurs enfants vers des écoles telles que des écoles aux apprentissages libres. Et je serais très curieuse que vous preniez conscience de ces craintes que vous pourriez avoir et peut-être de me les indiquer. Ça serait vraiment intéressant de partager tout ça. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve sur un prochain podcast. À bientôt.